Bonjour, bienvenue à cette émission de conférence pectorale. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera
la quatrième pierre, l'escarboucle, pierre de la passion.
Un enseignement de contemplation, mais aussi d'aspects pratiques pour votre vie chrétienne.
Nous allons donc continuer aujourd'hui avec la quatrième pierre du pectoral, l'escarboucle. Mais avant d'aborder cette pierre aujourd'hui, je voudrais rajouter quelques détails que j'ai oublié de mentionner sur l'urim et le thummim, ce qui était joint au pectoral dans Exode 28, verset 30. Bien, on découvre dans quelques commentaires bibliques que ça peut faire allusion au terme lumière et perfection. N'oubliez pas que c'est toujours de droite à gauche. Si vous voyez, par exemple, les deux objets ou les deux pierres qui représentent l'urim et le thummim, on lit de droite à gauche, comme les Juifs lisent leur hébreu. Et donc, les termes associés, ça serait lumière et perfection. Rashi, un célèbre rabbin du 11e siècle, connu dans les commentaires talmudiques, connu aussi pour sa supériorité, en tout cas ses grandes connaissances, etc., bien, il a dit des choses très intéressantes. Et puis donc, il mentionne cela, mais par exemple, l'Institut biblique scientifique, Biblical Scientific Institute des États-Unis, eux autres, ils voient plutôt possibilité d'un contraste, puisqu'il y a une pierre d'ambre plus blanche, plus pâle, et une pierre d'hématite pour le thummim. Urim, ambre et thummim, hématite, donc qui est noir. Alors, lui, cet institut-là, en fait, voit plutôt lumière et ténèbres. Alors, pour faire une distinction, par exemple, s'il y avait un tirage au sort, comme j'ai déjà dit, le blanc pour le oui, la pierre blanche, l'urim, et si c'était la noire, l'hématite, le thummim, bien c'était non. C'était une possibilité pour connaître la volonté de Dieu. Mais les commentateurs ne sont pas tous unanimes, pas tous d'accord là-dessus. John MacArthur, par exemple, dit que c'est peu probable, ça devait être autre chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Alors, juste dire qu'en relation avec le croyant aujourd'hui, bien, lui, n'a pas besoin d'utiliser des pierres ou des choses comme ça, mais il a l'Esprit de Dieu. Il est lui-même son corps, son cœur, son esprit, celui qui est né de nouveau, qui est converti, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu sa parole régénératrice et l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Bien, il est une nouvelle créature et ayant reçu cet esprit, bien, c'est lui, c'est ce Saint-Esprit qui le conduit, qui l'inspire, qui fait toute la différence dans sa vie. Il est tellement précieux, ce Saint-Esprit. Donc, c'était vraiment une autre époque, un autre temps, une autre dispensation dont les choses se passaient différemment. Alors, on va s'arrêter là pour ça et on va aller à notre quatrième pierre dans Exode 28, verset 18. Donc, Dieu disait à Moïse, dans la seconde rangée, tu vas ajouter, en mettant les pierres sur cet objet-là, hein, le pectoral, une escarboucle. Il y aura donc une autre rangée. Mais ça, c'est la première, mais la seconde rangée. Une escarboucle, un saphir, un diamant. Donc, l'escarboucle, la première pierre, toujours de droite à gauche, de cette deuxième rangée de pierres sur le pectoral. Alors, on peut l'appeler, moi je l'ai intitulé comme ça en tout cas, pierre de la passion. Du latin, l'escarboucle, c'est carbunculus, qui veut dire petit charbon. De l'hébreu, nofek. Ça peut possiblement aussi, pour certains qui ont fait des recherches, qui se sont penchés là-dessus, être une turquoise. Ça vient d'une racine du sens d'étinceler. Il y a d'autres mots hébreux qu'on trouve en rapport avec la pierre. Ekdash, par exemple, Ésaïe 54, 12. Alors, ça fait allusion à une ardente lumière, à étinceler, à flamboiement. Il y a aussi en grec le mot lié à cette pierre, c'est anthrax, tiré de la version des Septante. Donc, on sait que l'anthrax, ça fait allusion à du charbon aussi. Alors, sur l'échelle de dureté du professeur Mou, qui a évalué la dureté de chaque minéraux, chaque pierre précieuse, bien, elle est située entre 6,5 jusqu'à 9. Gravé dans l'ordre des naissances, donc des 12 fils de Jacob ou des 12 représentants des tribus d'Israël, dans Exode 28, verset 10, verset 21, l'escarboucle portait le nom de Judas. Judas signifie « qu'il, Dieu, soit loué ». Et c'est particulier parce que lorsque Léa a eu cet enfant-là, bien c'est ça, c'est que c'est dans Genèse 29, verset 35, elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils et elle dit « cette fois, je louerai l'Éternel ». C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Donc, ça avait rapport avec sa louange à l'Éternel parce qu'elle avait eu encore cet enfant, hein, Léa, qui était un peu moins aimée, mais que Dieu avait, à cause de cela, rendu plus stérile que l'autre femme qu'avait Jacob, Rachel. Alors, rubis vient du latin rubus, signifiant « rouge ». Et avant le 19e siècle, le rubis, la spinelle rouge et le grenat étaient souvent appelés escarboucles. C'est pour ça que je parle du rubis. Cette quatrième pierre du pectoral est appelée donc charbon parce qu'elle était d'un rouge profond et incandescent. On pourrait dire presque qu'il est en feu, là, hein, comme quelque chose qui brûle un peu comme un charbon brûlant. Lorsqu'on regarde un feu de foyer, quelque chose qui ressemble à ça. Elle peut aussi être appelée almandin ou almandite. On dit que les plus beaux grenats viennent du Pegu en basse Birmanie, situé entre l'Inde et la Thaïlande. Alors, par ses significations du latin, de l'hébreu et du grec, c'est une pierre qui parle de chaleur ardente, d'étincelance, de feu et de flamboiement. Alors, dans la vie chrétienne, cela peut représenter l'ardeur, la passion, le zèle, une vie fervente pour le Seigneur. Alors voyons, on va commencer avec ce premier aspect, la passion et le zèle du Seigneur lui-même. On trouve dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, au chapitre 8, versets 5 à 6, « Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sur le pommier, et là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté. » qu'elle t'a donné jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Je lis aussi le verset 7. « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Plusieurs d'entre nous, certainement, ont vu en 2003 le film de Mel Gibson, le film sur Jésus, sur sa passion. Il s'intitulait le film, justement, « La passion ». Et quel film, hein? Oh, quelle emphase il a mis sur les derniers moments de la vie du Seigneur et tout ce qu'il a pu vivre et souffrir pour en se rendant jusqu'à la croix pour le salut du monde entier. Le dictionnaire dit du mot « passion », c'est un mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire. Une émotion qui domine, une émotion puissante, qui continuelle, qui domine la raison. Et le producteur du film « La Passion » Mel Gibson a voulu montrer certainement l'intensité de ce que Jésus acceptait comme souffrance dans cette passion qu'il avait pour sauver le monde, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, nous servons un Dieu passionné. Il a montré tout son amour en Jésus-Christ. De même aussi, il y a des choses qu'il déteste farouchement. Et en premier lieu, bien, c'est le péché, certainement. La passion, nous dit le Cantique des Cantiques, est comme donc des ardeurs de feu. Elle peut être une flamme de l'Éternel. À l'opposé, il y a des passions aussi qui sont charnelles, qui sont diaboliques, la Bible nous dit. Par exemple, Paul en parle dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, verset 22. Il lui dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Jacques, lui, dit que c'est à cause de nos passions que nous avons des querelles et des conflits entre nous. Mes amis, il faut la passion de Dieu, pas les autres passions. Rappelez-vous, le Seigneur, lorsqu'il entre à Jérusalem et il va dans le temple, et là, il aperçoit les vendeurs et les changeurs et le commerce et le trafic, et il se met en colère, il fait un fouet, il commence à chasser ces gens-là, il renverse leur table avec la monnaie et tout cela, et les gens sont étonnés, et puis plus tard, ils ont réalisé, ils se sont rappelés les apôtres, ceux qui étaient là, qu'il était écrit dans l'Écriture, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est David qui avait d'abord écrit ces mots plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, probablement c'est environ 1000 ans avant Jésus-Christ, dans le psaume 69 au verset 10. Et David avait expérimenté certainement pour écrire cela, ce zèle lui-même. Et en même temps, il prophétisait de ce que Jésus allait vivre dans ce psaume. Là, il est question du zèle dans ce psaume, mais il y a d'autres choses, d'autres passages qui décrivent des moments tangibles que Jésus a vécu, même à la croix. Au verset 4 du psaume 69, il est prophétisé que son gosier se desséchait. Un phénomène qui se crée lors d'une crucifixion, justement. La mort vient par une asphyxie graduelle. Le verset 22 dit qu'il l'abreuvait de fiel et de vinaigre. C'est ce qu'on a essayé de faire boire à Jésus sur la croix. Il a supporté toutes ces choses dans sa passion pour nous sauver. Sa passion a été comme le flamboiement de l'escarboucle, comme un charbon en feu. En revenant dans l'Évangile de Jean au chapitre 2, on voit son zèle pour le temple, pour la maison de Dieu, son Père. Et sur les 4 évangiles, les autres disent pourquoi il a chassé les vendeurs avec ce fouet. Et il a répondu, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. On trouve ça dans Marc 11, 17, par exemple. Alors, en voyant Jésus, les ambitions et la folie humaine prendre la place de l'unique parfum des prières que Dieu demandait, ben, il s'est mis dans une sainte colère. Nous qui sommes ses disciples, nous pouvons et nous devrions avoir cette même passion que Jésus avait. Devrions avoir une passion comme Jésus. Jérémie le prophète a dit, « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le peux pas. » Jérémie 20, verset 90. Les personnes comme Jérémie sont comme l'escarboucle. Ce sont des personnes qui brûlent de ce feu de Dieu. Dans le temple, Jésus a dit, il y avait des voleurs. Et si nous appliquons cela à nous, qu'est-ce qui pourrait nous voler, par exemple, notre vie de prière? Qu'est-ce qui pourrait nous voler ce qui doit être à la place de ce que Dieu veut qu'il soit à cette place-là? De ce qu'on pourrait faire pour Dieu? Alors, pour certains, ça peut être la télévision. Ah oui, avec ses mauvaises influences. Jésus a dit dans Matthieu 6, 23, « Si l'œil est en mauvais état, tout le corps va en souffrir, » dit Jésus.
Bien chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble les richesses de l'enseignement sur le pectoral. Shalom et à bientôt!